Chloé Mahé et bienvenue sur le podcast Le Journal du Pharmacien. Si tu souhaites en apprendre plus sur les possibilités qui s'offrent à toi et que tu recherches une bonne dose d'inspiration, tu es au bon endroit. Alors, bonne écoute. Pour cette nouvelle interview, je reçois Christophe Durand. Après avoir démarré sa carrière dans le développement clinique, M. Durand s'est ensuite orienté vers des postes liés au marketing. Il est aujourd'hui général manager du laboratoire Bristol-Myers Squibb France, classé dans le top 10 des plus gros laboratoires pharmaceutiques au monde et dont la mission est de découvrir, développer et proposer des thérapies innovantes pour des patients atteints de maladies graves. Le laboratoire propose ainsi des thérapies dans de nombreuses aires thérapeutiques, notamment l'oncologie, l'immunologie, mais aussi les maladies cardiovasculaires. Je n'en dis pas plus et vous laisse découvrir notre échange. Bonjour à tous. Cette semaine, j'ai l'honneur de recevoir Christophe Durand, général manager du laboratoire Bristol-Myers Squibb France. Bonjour Christophe, comment allez-vous ?
Bonjour Chloé, je vais très bien et vous-même ?
Super, ça va super. J'ai vraiment hâte de démarrer cette interview.
Et moi donc ?
Alors du coup, dans un premier temps, on va revenir un peu sur votre parcours. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment vous en êtes arrivé là et votre histoire ?
Alors, d'abord, j'ai commencé par des études de pharmacie à Lyon. J'ai complété par un DESS de pharmacie industrielle, quelques diplômes universitaires de pharmacologie clinique, et puis à Lyon, à l'époque, alors je ne sais pas si c'est encore toujours le cas, mais j'ai eu la chance de pouvoir faire un externat pendant 4 ans aux Hospices Civils de Lyon. Et puis après, cette base scientifique, j'ai complété ces études par une école de commerce à Paris. Et puis finalement, ça fait maintenant 25 ans que je travaille dans l'industrie pharmaceutique pour avoir travaillé essentiellement avec des groupes suisses ou nord-américains.
Ok, alors vous avez dit que vous avez fait un externat. Du coup, vous avez étudié plus que 6 ans en tout ?
Non, l'externat, c'était une spécificité de la faculté de pharmacie de Lyon qui permettait aux étudiants de la deuxième année jusqu'à la cinquième année de travailler à l'hôpital en parallèle des cours qui étaient donc aménagés dans différents types de services, évidemment donc les pharmacies hospitalières, mais des fois également les laboratoire de biologie ou certains services cliniques d'ailleurs, ce qui a été mon cas, et ça a été la découverte de l'univers hospitalier, qui est pas forcément un univers qu'on découvre aussitôt dans le parcours universitaire pharmaceutique, puisqu'en principe c'est plutôt au moment de l'internat qu'on a la possibilité de commencer à travailler à l'hôpital. Donc c'est une chance qu'avaient les étudiants lyonnais et que j'ai bien évidemment saisi pour pouvoir m'ouvrir à cet univers hospitalier assez spécifique.
Ah oui, c'est vraiment super. Je sais que nous, à Châtenay, on n'a pas cette opportunité-là. Je ne sais pas si ça existe toujours à Lyon, mais en tout cas, pour les étudiants qui sont en filière industrie, on découvre l'hôpital en cinquième année. On a un stage de 6 mois.
Donc ça serait peut-être, à vérifier si ça existe encore, une bonne pratique à développer par les autres présidents d'université, parce que très honnêtement, ça a été un plus indéniable en termes d'expérience, qui m'a aussi beaucoup servi par la suite de ma carrière.
D'accord. Et c'était à quelle fréquence que vous travailliez à cette époque-là ?
Tous les jours. L'externat, c'était tous les matins. C'était même suffisamment validant pour faire, sans lettres, mais faisant fonction d'interne, donc FFI, ce qui m'a permis également de travailler dans des laboratoires de biologie pour faire des gardes de nuit. Donc c'était souvent toute la semaine le matin et puis les week-ends dans des laboratoires de biologie privés.
Ah oui, c'est super, parce que tous les matins pendant 4 ans, c'est une sacrée expertise à la fin.
Oui, et puis ça marche selon le même système que les externes de médecine. Donc tous les 6 mois, vous changez d'hôpital et de service. Donc ça a fait, j'ai fait le tour des hôpitaux de Lyon, des Hospices Civils de Lyon, vraiment dans tout type de service. Donc c'était vraiment très enrichissant et encore une fois, voir de l'intérieur le fonctionnement hospitalier à l'heure où aujourd'hui je m'occupe d'un laboratoire qui met à disposition essentiellement des produits hospitaliers, ça reste encore un plus aujourd'hui.
Ok, super. Et pourquoi avez-vous choisi de devenir pharmacien ?
Ah, bonne question. Bonne question, Chloé. Peut-être par atavisme familial. Alors, j'ai une mère qui travaille dans l'enseignement et qui est donc professeur de biologie, et un père qui est chercheur à l'université, donc dans le domaine public, et qui est même président d'université. Et donc, la science a toujours été au cœur de la famille. Donc, finalement, s'orienter vers des études de pharmacie, c'était une forme de suite logique, parce que j'avais moi aussi beaucoup d'appétence pour les sujets scientifiques et tout ce qui est en lien avec les sciences du vivant. Et je trouvais que ce parcours avait ceci d'avantageux, qu'il donnait énormément de possibilités de parcours professionnel. Et c'est vrai que ces études, je me souviens qu'à l'époque, on avait été visité en amphi par des internes qui venaient nous convaincre d'aller manifester pour défendre l'unicité du diplôme. Et à l'époque, j'étais, je crois, étudiant en première année. Je comprenais pas trop ce que ça voulait dire, mais j'ai bien compris après que ces études, finalement, elles permettent d'ouvrir sur la voie de l'hôpital, sur la voie de l'officine, sur la voie de l'industrie, et en fait, bien d'autres voies, mais non par les cursus complémentaires avec des écoles d'ingénieurs, des écoles de commerce. Et donc, finalement, c'était le meilleur cursus possible, de mon point de vue en tout cas, pour pouvoir m'offrir des possibilités de développement professionnel et être en lien avec les sciences de la santé, les sciences du vivant.
C'est vrai que c'est un diplôme hyper riche. Pour rebondir justement là-dessus, j'ai vu que vous avez commencé dans l'industrie cosmétique. Pourquoi vous avez fait ce choix, d'aller d'abord chez L'Oréal?
Alors, en réalité, j'ai pas tout à fait commencé par l'industrie cosmétique. J'ai bien commencé par l'industrie pharmaceutique. Pendant mon cursus de pharma, j'ai également fait en quatrième et cinquième année un DESS de pharmacie industrielle qui s'appelle l'IPIL, qui existe toujours, qui avait pour objectif initial de développer des cadres, on va dire techniques, pour venir alimenter le tissu industriel pharmaceutique régional. Donc c'est un peu dans cette logique que j'ai commencé en recherche clinique au sein d'une division de Pasteur Mérieux Sérum et Vaccins, donc qui s'appelle Sanofi Pasteur maintenant, et une filiale qui s'occupait du développement clinique d'anticorps monoclonaux utilisés en transplantation rénale. Donc ça remonte à quelques années maintenant. Et donc j'ai bien commencé dans l'industrie pharmaceutique, dans le développement clinique, qui était mon souhait à l'époque, hein, de commencer vraiment plutôt côté recherche. Et à travers cette expérience professionnelle, j'ai rencontré des métiers qui m'ont beaucoup plu, dont les métiers du marketing en particulier. Et quand j'ai posé la question, au DRH de l'époque, finalement, qu'est-ce qu'il fallait faire pour aller s'orienter vers ces métiers? On m'a expliqué qu'il fallait, en plus de ces études de pharmacie, de faire ce que vous faites, Chloé, une spécialisation, un master dans une business school. Ce que j'ai donc souhaité faire en allant à Paris. Et sur le campus de cette école de commerce, finalement, j'ai rencontré des recruteurs de L'Oréal, qui était une école très proche de l'école de commerce que j'ai fait. Et je me suis dit que la finalité serait toujours de revenir vers l'industrie pharmaceutique, mais ils ont eu des arguments assez convaincants pour aller les rejoindre sur des marques, évidemment, qui sont quand même co en cohérence avec ce que je voulais faire à l'époque, donc des marques qui sont distribuées dans le circuit pharmacie par le groupe L'Oréal, qui sont, j'irais, promues par à la fois des visiteurs pharmaceutiques, mais également des visiteurs médicaux, et donc avec des positionnements plutôt très santé. Et puis, ce qui m'a intéressé, c'était aussi d'aller travailler pour un domaine dans lequel le marketing serait moins contraint qu'il ne l'est au niveau donc pharmaceutique, et également pouvoir rejoindre une équipe globale qui fait du marketing développement. Parce que c'est vrai qu'on va probablement en parler, mais quand on est responsable d'une filiale d'un groupe pharmaceutique, on fait rarement de la recherche ou du développement sur site. Donc ou en tout cas, c'est rarement les mêmes équipes qui font et du développement et de la commercialisation. Alors que dans une structure comme celle-ci, c'est la même équipe qui, au niveau global, va développer les produits, la stratégie de positionnement, la stratégie prix, et convaincre les pays de référencer ces produits pour les commercialiser après sur leur marché. Donc, l'idée d'un marketing développement, c'était aussi une idée très séduisante. Et donc, je me suis bien plu et j'ai bien appris dans cette fonction globale pendant 3 ans chez L'Oréal.
Ok. Pour rebondir sur le fait que vous vouliez voir un environnement un peu moins réglementé que la pharma, maintenant, enfin, c'était il y a 20 ans du coup.
C'était il y a même 30 ans.
Donc maintenant, c'est même, enfin, maintenant, on ne peut plus rien faire quoi, dans le marketing pharma de ce qu'on a appris nous en...
Alors, si, on peut faire beaucoup de choses, mais on est une industrie très sensible et qui a des engagements forts vis-à-vis des patients, vis-à-vis des prescripteurs, vis-à-vis des pouvoirs publics. Et donc, on peut pas faire n'importe quoi. Donc, c'est vrai qu'on est probablement l'industrie la plus encadrée, la plus contrôlée, la plus vérifiée dès lors qu'il s'agit d'émettre des messages autour de nos produits. Donc, typiquement, en France, la communication, à part pour les vaccins, bien sûr, auprès des patients, n'est pas possible. Et toute notre communication à visée donc promotionnelle auprès des professionnels de santé est encadrée puisque tous nos éléments sont soumis à un visa et une approbation auprès de la NSM. Mais pour autant, c'est un cadre dans lequel il y a beaucoup de liberté tout de même. On peut faire passer nos messages sur nos produits. Et le message principal, il ne faut pas oublier que notre mission première, c'est de garantir le bon usage de nos produits. Donc ça, c'est aussi une mission de santé publique finalement, et on a la possibilité de véhiculer encore beaucoup d'informations autour de nos produits, et fort heureusement. Il faut pas partir en tant qu'étudiant avec l'idée qu'on peut plus rien faire. On a des équipes très créatives qui utilisent de nombreux supports, médias différents pour pouvoir communiquer. Il y a effectivement des partenaires forts au sein de l'entreprise qui aident ces équipes marketing à construire les messages pour qu'ils soient respectueux des règles. Mais on peut faire beaucoup de choses.
Ok, et je voulais aussi rebondir sur le fait que vous avez dit qu'en pharma, on peut pas, c'est pas la même équipe qui va développer et qui va promouvoir. C'est une question pareille de conflit d'intérêts ?
Non, pas forcément. Je pense que c'est plutôt une question d'expertise. Développer un produit, ça prend une décennie à partir du moment où vous avez breveté votre molécule. Et les brevets dans ce domaine durent 20 ans. Donc, il vous reste 10 ans pour commercialiser votre produit et finalement amortir vos investissements. Alors que dans l'industrie cosmétique, la parapharmacie, les rythmes de développement, la technologie qui sont derrière les innovations dermocosmétiques sont quand même pas du niveau de celles qu'on peut avoir dans la pharmacie classique et nécessitent de fait beaucoup moins de temps de développement. Donc le rythme de développement et de mise à disposition des produits est beaucoup plus rapide et sont pensés aussi en fonction des besoins des utilisateurs. Donc c'est aussi pour ça qu'il est logique que celui qui développe le produit soit aussi celui qui pense aux besoins des utilisateurs et réciproquement, alors que dans les stratégies de développement de l'industrie pharmaceutique au sens éthique du terme, on a d'autres enjeux, c'est-à-dire que la recherche est très complexe, on va sur des aires thérapeutiques et c'est complètement le credo de Bristol Myers Squibb sur lequel le besoin médical est mal couvert ou non couvert et on espère apporter le maximum de bénéfices pour les patients. Et donc, pour développer une molécule et réussir à développer une molécule, ça prend énormément de temps, ça prend beaucoup d'échecs, on l'oublie souvent, avant de réussir à développer une molécule. Donc, c'est pas forcément une question de conflit ou de lien, c'est plutôt une question technique. Et les développeurs sont des gens qui ont des carrières dans le développement parce que c'est très complexe.
Ok, bah merci beaucoup du coup pour tout ce partage, c'était vraiment très intéressant. Maintenant, nous allons passer à la seconde partie de l'entretien et parler un peu du laboratoire Bristol Myers Squibb que vous représentez. Alors, la première question que j'ai, c'est quelle est la mission justement de Bristol Myers Squibb, même si vous en avez déjà parlé un petit peu, et quel est son domaine d'expertise ?
Donc, Bristol Myers Squibb, c'est une entreprise biopharmaceutique internationale dont la mission consiste à découvrir, on vient d'en parler, développer, on en a aussi parlé, et proposer des médicaments innovants qui aident les patients à vaincre des maladies graves. Donc ça, c'est vraiment notre ADN. Ça fait une cinquantaine d'années que le groupe est positionné à l'avant-garde de l'innovation en santé dans des domaines clés pour la santé publique, en particulier pour le traitement du virus du sida, pour le traitement du virus de l'hépatite C. Et depuis plus récemment, notre laboratoire est arrivé avec une technologie vraiment différente dans le cadre du traitement de l'oncologie, avec des traitements qu'on appelle d'immuno-oncologie. Et aujourd'hui, on est un acteur tout à fait majeur sur la lutte du cancer d'une manière générale. Alors, indépendamment de l'oncologie, on a d'autres engagements forts dans d'autres aires thérapeutiques, en particulier l'hématologie, qui est vraiment le cousin de l'oncologie, bien évidemment, les maladies cardiovasculaires, l'immunologie, les maladies inflammatoires du type polyarthrite rhumatoïde ou la sclérose en plaques. Alors, on a vraiment à cœur de mettre toute notre énergie, tous nos efforts pour réussir à amener des innovations le plus régulièrement possible auprès des patients, auprès des prescripteurs qui correspondent à ces aires thérapeutiques. Et on a une recherche très active, tant en interne qu'en partenariat également avec un certain nombre d'acteurs externes qui nous permet aujourd'hui d'avoir un portfolio de molécules très très important en lien avec ces aires thérapeutiques et dont on espère qu'ils seront les futures innovations de demain pour les patients et les prescripteurs.
Ok, donc tout ça signifie gros investissement financier en termes de R&D.
Alors oui, ça c'est effectivement des investissements. Tout ça c'est finalement des risques que prend l'investisseur à investir dans des développements cliniques. Et je le rappelle, hein, en oncologie, des études de phase 3 dont on peut imaginer qu'elles arrivent à un moment où on a un certain nombre de renseignements évidemment sur la molécule et dont on peut espérer qu'elle soit positive, ne le sont pas dans 60% des cas. Donc ça veut dire qu'on a des molécules très abouties en termes de développement qui au moment de leur étude pivot ne franchissent pas le cap dans la majorité des cas. Donc ça montre le nombre de molécules qui sont laissées sur le bord de la route parce qu'elles échouent en termes de démonstration de leur efficacité ou de leur tolérance, en tout cas au niveau des standards attendus par les autorités. Et donc, tout ça, c'est des risques qu'il faut assumer financièrement. Donc, effectivement, ce sont des investissements importants, tant dans notre recherche en propre que dans des partenariats de recherche avec le monde académique et aussi des rachats qui peuvent s'opérer d'un groupe, d'une entreprise pharmaceutique à une autre.
D'accord, ok. Et quelle était la stratégie derrière le rachat de Celgene en 2019 ?
Alors justement, peut-être déjà une première constatation, quand on regarde notre industrie par rapport à d'autres industries, c'est encore une industrie qui est assez micronisée avec, alors évidemment, des grands acteurs internationaux, mais encore pas mal d'acteurs régionaux, nationaux. Et il y a une tendance forte depuis, j'ai commencé ma carrière depuis une vingtaine, 25 ans maintenant, à ce que les entreprises se rapprochent pour atteindre des masses critiques et permettre également, donc pour financer leur développement clinique entre autres, et également permettre de renforcer leur portfolio sur certaines aires thérapeutiques en cohérence avec les stratégies des groupes. Donc c'est dans cette logique que Bristol Myers Squibb a souhaité racheter le groupe Celgene en novembre 2019 pour renforcer sa position, en particulier sur l'aire thérapeutique oncologie et hématologie. En effet, Celgene est un acteur, une biotechnologie historique, ancrée dans une pathologie historique de l'hématologie qui est le myélome multiple. Et ça faisait tout à fait sens pour Bristol Myers Squibb d'acquérir cette entreprise, qui plus est parce qu'elle était en train de développer une nouvelle technologie de traitement qu'on appelle les CAR-T-cells, qui consiste à prélever les lymphocytes T d'un patient, à les recoder, à les armer finalement, à les rendre immunocompétents vis-à-vis de la cellule cancéreuse, à les multiplier et à les réadministrer au patient. Donc ça, ce sont des technologies de médecine très personnalisée, puisque un traitement correspond à un patient. Et Celgene possède deux technologies CAR-T, une dans le myélome et une dans le lymphome. Et c'est aussi une raison pour laquelle le groupe BMS, Bristol Myers Squibb, a souhaité acquérir Celgene. C'était aussi l'idée pour notre groupe d'acquérir des équipes, des produits venant de l'univers de la biotechnologie, puisque Bristol Myers Squibb a fait un virement stratégique depuis un certain nombre d'années maintenant pour aller vers ce qu'on appelle la biopharma, c'est-à-dire essayer de combiner au mieux les habitudes, les usages, les standards, les références de la big pharma avec ceux des biotech. Et c'est un pari qu'on est en train de remplir, puisqu'on a un portfolio de produits qui correspond exactement à celui de biotechnologie, finalement, de laboratoire de biotechnologie. Mais on a une taille critique qui nous met parmi les 10 grands acteurs mondiaux de l'industrie pharmaceutique. Donc, on combine finalement les atouts de la big pharma et les atouts de la biotech.
D'accord. En fait, vous pouvez un peu accéder à l'innovation de façon plus facile quoi, avec la biotech, parce que c'était une structure plus petite, j'imagine.
Alors, le modèle de développement fait, et en particulier sur le territoire nord-américain, que des équipes de recherche se structurent un jour autour, par exemple, d'une technologie, d'un produit qui fonctionne sur une voie de signalisation dans le cancer, par exemple, et construit autour de cette équipe de recherche un écosystème un peu plus industriel qui a pour vocation à amener les fruits de cette recherche sur les marchés et entre les mains des prescripteurs. Et ça se fait souvent par effectivement des petits laboratoires, des petites structures, des petites biotechnologies qui parfois deviennent très grandes. Ça a été le cas de Celgen, par exemple. Parfois restent plus confidentielles, plus petites. Et effectivement, ce sont souvent des acteurs qui intéressent les groupes plus grands parce que c'est un moyen par croissance externe d'aller capter de l'innovation et de la développer auprès d'un grand groupe industriel comme le nôtre ou d'autres acteurs. Il n'y a pas que nous qui faisons ça, bien évidemment. Et donc, il faut comprendre aujourd'hui qu'il est tout aussi noble de développer des produits par sa propre recherche que de développer des partenariats avec une recherche académique ou avec ses biotech pour permettre à un moment de finalement de récupérer les fruits de cette innovation pour l'industrialiser, donc les développer, et puis les mettre en production et les amener d'un point de vue réglementaire et accès au marché dans les portefeuilles de prescription, dans les arsenaux thérapeutiques des différents prescripteurs dans le monde entier. Et c'est un peu un passage obligé parce que c'est pas si simple que ça de passer du stade de l'innovation au stade du produit fini qui obtient un prix en remboursement. C'est un très long chemin et nos groupes sont assez spécialisés pour conduire ce chemin dans de bonnes conditions.
Ok, et ça prend combien de temps à peu près la mise en place d'une telle stratégie de rachat ?
Alors, les groupes réfléchissent en permanence à la possibilité de dynamiser leur portefeuille de produits, leurs alliances. Donc c'est quelque chose qui est pensé par notre CEO, par son board, par l'équipe de direction globale, quasiment tous les jours. J'ai même envie de dire que c'est leur sujet principal. Donc c'est des fois des projets qui mettent du temps à maturer, des fois c'est des projets plus opportunistes. Donc c'est des temps différents selon la nature de l'acquisition. Donc des acquisitions qui vont se faire très vite, d'autres qui mettent un peu plus de temps à aboutir. Typiquement pour Celgen, c'est une acquisition qui a pris presque 2 ans à être réfléchie avant d'être opérationnalisée. Et ça fait maintenant 2 ans un an et demi que le rachat a été validé. Et on est toujours aujourd'hui 2 entités légales séparées avec une organisation fonctionnelle unique. Mais vous voyez que les temps d'opérationnalisation aussi de ces fusions, mais aussi du temps une fois que vous avez validé auprès des instances de régulation qui vérifient que vous n'êtes pas par le biais de ce rachat dans une position de monopole, par exemple. Donc ça, c'est des temps plutôt longs, hein, ces temps de rapprochement. En tout cas, l'opérationnalisation des rapprochements des équipes et l'intégration de ces produits prend toujours un certain temps. Quant à la décision pour faire ces deals, c'est variable. C'est très variable. C'est des temps longs de 2 ans à des temps beaucoup plus courts. Des fois, 6 mois, le deal peut être fait.
Ok, d'accord. Merci beaucoup. Et il y a une question qui me semble essentielle, étant donné le contexte actuel. Quelle place donne le laboratoire au digital et quelle stratégie digitale avez-vous mis en place ?
C'est une bonne question. Alors, on a mis en place une stratégie digitale sur plusieurs niveaux. Notre objectif, c'est vraiment de transformer par la science la vie des patients. Donc, l'idée du digital, la manière dont on l'a conçu ou on l'a réfléchi dans un premier temps, ça a été de mettre ce digital au service de l'efficience de nos produits et au bénéfice du parcours de soins du patient. Donc, on a entre autres deux projets assez emblématiques au sein de notre organisation. Le premier, c'est un projet d'accompagnement destiné aux malades atteints de myélome multiple, qui comprend un accompagnement infirmier personnalisé et une plateforme internet où on peut avoir à la fois de l'information et des conseils, qu'on a réalisé en partenariat très étroit avec l'association la F3M, qui est l'association de référence dans le cadre du myélome multiple. Donc ça, c'est typiquement un programme, c'est le programme EmaVie, qui n'aurait pas été possible sans les technologies digitales d'aujourd'hui. Un autre partenariat, cette fois, qu'on a noué avec un partenaire externe qui s'appelle MoveCare, de la société Civan, c'est la première thérapie digitale qui a été remboursée par la Sécurité sociale dans le cadre du cancer du poumon, qui peut être prescrite par un médecin et qui permet de détecter précocement des signes de complications ou de rechute via des alertes qui se font par un système d'interfaçage entre le patient et l'équipe soignante qui suit le patient habituellement. Donc ça, c'est typiquement des vraies avancées. On a été très fiers d'être associés à cette première thérapie digitale remboursée sur le territoire français. Donc ça, c'est une première famille de projets digitaux sur lesquels on aime travailler. Ensuite, on est évidemment assez actif sur, alors on oublie, mais c'est aussi la technologie digitale sur les réseaux sociaux, que ce soit Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube. On a, en particulier sur YouTube, pas mal de supports, de pédagogie pour sensibiliser le grand public autour de pathologies spécifiques et contribuer à l'effort de prévention. Entre autres, on a un programme qui s'appelle la Minute Expert, un autre qui s'appelle la Minute Patient sur notre chaîne YouTube. Donc ça, c'est aussi des vecteurs. On parlait de communication tout à l'heure sur la communication grand public. Quand vous voulez faire de la sensibilisation autour d'une pathologie donnée, vous avez la possibilité d'aller communiquer auprès du grand public dès lors que vous n'évoquez pas vos produits, bien évidemment. Ensuite, l'innovation digitale, c'est aussi une façon de fonctionner en interne. Et chez Bristol Myers Squibb, on a la chance d'avoir créé une structure d'incubation d'idées innovantes digitales. Et chaque année, on a, grâce à cet incubateur, des équipes qui montent des projets que l'on finance en interne et que l'on soutient avec des sponsors auprès du comité de direction pour permettre l'innovation digitale. Donc, cette stratégie digitale n'est pas possible si vous n'avez pas une vraie volonté de l'accompagner, de la faire émerger et de la financer en interne. Donc, on a cet incubateur qui existe et qui fonctionne très bien, puisque chaque année, on a entre 7 et 10 projets digitaux qui sont créés sur la base du volontariat en interne dans l'entreprise et autour de thématiques que l'on soumet aux équipes en début d'année. Et puis peut-être, dernier point, la crise sanitaire qu'on est en train de traverser a été un accélérateur formidable de la transformation digitale dans nos organisations, puisque il y a un peu plus d'un an, on n'aurait peut-être pas enregistré cette émission de la même manière qu'on le fait maintenant. On ne se verrait pas comme on est en train de se voir maintenant via une plateforme digitale. Et on a pu démontrer que via des systèmes de visioconférence, on pouvait faire fonctionner des filiales comme la nôtre de manière totalement dématérialisée, sans perdre de vue notre mission qui consiste à amener nos innovations auprès des patients et des médecins, ce qu'on a continué à faire bien évidemment sans rupture pendant la crise qu'on vient de traverser. Et ça, ça a été fait grâce à l'outil digital. Et il est fort à parier qu'en sortie de crise, la place du digital dans nos interactions entre nous au sein de l'organisation ou entre nous et les professionnels de santé va avoir une place beaucoup plus importante qu'elle ne l'avait avant la crise, bien que les technologies existaient déjà à l'époque. Et ça va probablement même amener des bouleversements dans notre façon de travailler entre nous et vis-à-vis de ces parties prenantes externes avec lesquelles on est connecté quasiment quotidiennement.
Ouais, je suis complètement d'accord. À mon avis, ça va vraiment transformer le monde du travail. On voit vraiment quand même l'importance des partenariats hein, chez Bristol Myers Squibb, mais je pense que c'est le cas aussi de toutes les autres Big Pharma. Vous réalisez vraiment beaucoup, beaucoup de partenariats.
Alors, il faut comprendre qu'on n'est pas un acteur isolé qui vit dans sa tour d'ivoire, qui a la chance un jour par hasard de développer une molécule et qu'il met à disposition. Non, c'est on est dans un système de soins d'une complexité incroyable et une sophistication incroyable et qui fait d'ailleurs tout l'intérêt de nos métiers. Et on ne peut réussir que si on est très connecté aux pouvoirs publics, aux politiques de santé publique, très connecté aux régulateurs, très connecté aux payeurs, très connecté aux patients, très connecté à la communauté de leaders, de médecins, qui sont des grands spécialistes de certaines aires thérapeutiques sur lesquelles on souhaite se positionner. Donc, on ne peut pas réussir en réalité sans être à tous les moments de la chaîne de création de valeur en interaction permanente avec ceux qui font cette chaîne de valeur en réalité. Et ceux qui font cette chaîne de valeur, c'est tous. C'est les citoyens que nous sommes, ce sont les malades que nous sommes, ce sont les soignants, nous sommes les prescripteurs, les infirmiers, les pouvoirs publics. Donc, on est obligé d'être, c'est même une obligation d'être sur ce mode partenarial. Et d'ailleurs, la loi est assez bien faite puisqu'elle autorise parfaitement ces partenariats, moyennant une grande transparence puisque on déclare chaque euro investi sur le territoire français auprès de tous ses interlocuteurs, parce que on est une industrie particulière et on doit cette transparence à nos citoyens et on n'a pas de souci à le faire d'ailleurs, puisqu'on n'a rien à cacher.
Ok, merci beaucoup. C'est vraiment extrêmement intéressant. Je pourrais continuer des heures, mais bon, on va passer sur la dernière partie de l'entretien, à savoir du coup votre position de général manager. Et ma première question, c'est, aviez-vous pour ambition de devenir général manager dès le départ, ou est-ce que ça a plutôt été une question d'opportunité?
Alors, je ne connais pas de general manager qui travaille à mes côtés dans différents forums, qui se soit dit un jour, au démarrage de sa carrière, ou au stade où vous en êtes, par exemple, Chloé, de votre carrière, je veux être general manager. Je pense que c'est quelque chose qui se construit dans la durée et sous l'impulsion de rencontres, d'expériences. Et il faut comprendre que ce métier de président-directeur général, de general manager, c'est un métier de généraliste. C'est-à-dire que pour être à la tête d'une entreprise comme Bristol Myers Squibb France, par exemple, ça veut dire connaître et aimer tous les métiers de l'entreprise. Et donc, il faut plutôt avoir un positionnement de généraliste plutôt qu'un positionnement d'expert. Et ça, c'est quelque chose que nos auditeurs vont probablement découvrir dans l'univers professionnel. Il y a un moment où vous êtes confronté à une question qui est, voilà, j'ai commencé, je suis pharmacien, j'ai une double formation, j'ai commencé dans les métiers de l'accès au marché. Est-ce que je veux poursuivre toute ma carrière dans les métiers de l'accès au marché, qui sont de formidables carrières, ou est-ce qu'après un certain nombre d'années, vous avez plutôt un tempérament qui vous donne envie d'aller voir d'autres métiers? Bah, par exemple, le développement clinique, peut-être les métiers du marketing, les métiers du réglementaire. Et auquel cas, je pense que la plupart des general managers que je connais, ce sont plutôt des profils généralistes qui ont en tout cas une appétence, voilà, à aimer, à connaître et à travailler avec tous les métiers de l'entreprise.
D'accord, hein. Donc un peu touche à tout quoi, enfin qui est polyvalent, extrêmement polyvalent.
En fait, l'intérêt de ce rôle-là, c'est qu'il faut à la fois parfois être aussi expert que vos experts et à la fois pouvoir conserver la vue d'ensemble. Donc c'est ce qui fait l'intérêt d'avoir cette capacité à aller dans le détail sur certains sujets critiques où vous devez être en mesure de comprendre ce que vos experts internes vous disent ou ce que vos experts externes vous disent. Et en même temps, votre rôle, c'est vraiment de faire travailler tous les métiers à la fois. C'est anticiper au maximum et c'est d'être connecté à cet environnement. Donc, ce rôle de représentation de l'entité légale auprès des pouvoirs publics, c'est aussi quelque chose qui me prend beaucoup de temps. Donc, c'est voilà ce mouvement permanent entre aller dans le détail, à la fois garder la vue d'ensemble.
D'accord, ok. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement un petit peu plus en détail vos missions en tant que général manager et votre rôle?
Alors, la première mission, c'est que en tant que mandataire social de l'entreprise, nous sommes deux à être représentants légaux de l'entreprise sur le territoire français, le pharmacien responsable et moi-même. Donc, nous sommes légalement responsables de tout ce que nous faisons, de tout ce que les équipes font. Donc, ça, c'est déjà un rôle extrêmement important. Après, on est effectivement là pour faire que l'organisation fonctionne bien. Donc, il faut créer les outils de gouvernance appropriés pour que les décisions qui doivent être prises par l'entreprise le soient dans le bon timing et au bon niveau. Donc, il y a toute la question d'animer une gouvernance qui part évidemment du comité de direction, mais il y a des comités internes spécifiques autour de, par exemple, les enjeux d'accès, d'autres autour des enjeux de compliance, d'éthique, de transparence, d'autres autour de la question de la communication, de la réputation. Donc, vous travaillez autour de cette gouvernance. Ensuite, comme je l'ai dit, le quotidien, c'est aussi représenter le laboratoire vis-à-vis de certaines gouvernances publiques, comme la Haute Autorité de Santé, comme la NSM, comme le comité, comme le CEPS par exemple, donc le comité de prix. Ce sont comme également les représentants, voilà, de donc des pouvoirs publics. Ce sont aussi des représentants de l'Élysée, de Matignon ou de Ségur, donc le ministère de la Santé, qui sont des interlocuteurs du quotidien parce que ils aiment dialoguer avec les industriels, parce qu'ils partent du principe que nous faisons partie de l'écosystème de soins français. Ensuite, mon travail, c'est aussi de ne pas faire perdre de vue quel est le sens de ce que nous faisons. Donc, vous m'avez posé la question au démarrage de l'interview de quelle était la mission de Bristol Myers Squibb. C'est vraiment ça, c'est découvrir, développer, mettre à disposition des innovations pour des patients atteints de maladies graves. Et ce sens, cette mission, c'est quelque chose qu'on essaye de faire vivre et d'incarner aussi au quotidien pour nos collaborateurs et de faire en sorte qu'on ne perde pas de point de vue notre mission, malgré effectivement les difficultés du quotidien, les complexités opérationnelles dans lesquelles nous sommes, pour garder notre motivation. Parce que quand on fait les choses et qu'on sait pourquoi on les fait, on est davantage motivé. Donc c'est aussi un rôle clé de mon point de vue du general manager, de pouvoir faire vivre cette vision et cette mission quotidiennement.
D'accord, ok, merci beaucoup. On en arrive à la dernière question. Donc j'imagine qu'il y a une grosse responsabilité quand même sur vous qui pèse au niveau de votre image, donc j'imagine que vous avez une équipe qui vous soutient. Est-ce qu'il y a une stratégie mise en place derrière ça, derrière la gestion de votre image?
En réalité, il s'agit moins de la question de mon image que la question du groupe Bristol Myers Squibb et j'ai envie de dire même d'une manière générale de l'industrie pharmaceutique en France et au niveau mondial. Donc moi, je ne suis qu'un acteur de cela et finalement, la réputation dans une organisation comme la nôtre et évidemment dans la plupart des organisations qui nous entourent, c'est l'affaire de tous. C'est une attention permanente et une vigilance permanente autour de la qualité et la conformité de ce que nous faisons. Donc, j'ai pas une équipe qui s'intéresse à moi en particulier, je le souhaite pas. En revanche, on est tout un collectif, on a un comité de direction, on a également une équipe qu'on appelle Corporate Affaires qui est particulièrement vigilante aux signaux qu'on émet, aux décisions que nous prenons, pour être certain qu'on fait tout en conformité et évidemment en parfaite adéquation avec le cadre légal qui nous est donné. Et la question du dirigeant vient après, j'ai envie de dire. À partir du moment où vous positionnez vos standards d'éthique et d'intégrité de manière très élevée pour votre organisation, évidemment, en tant qu'individu, vous devez agir de la même manière, puisque vous montrez l'exemple. Mais on attache moins d'importance, je dirais, à l'individu qui pilote l'organisation que l'organisation. Moi, ce qui compte avant toute chose, c'est mes collaborateurs, c'est l'organisation elle-même, nos produits et les bénéfices qu'ils apportent pour la communauté de patients et la communauté de prescripteurs qui les utilisent.
D'accord, bah merci beaucoup. Merci beaucoup pour tout ce partage. Je vais vous laisser le mot de la fin. Est-ce que vous avez une inspiration positive à nous partager avant de nous quitter ?
D'abord, Chloé, merci pour cette initiative. Je trouve formidable qu'on puisse partager des expériences, alors comme la mienne, mais il y en a des milliers d'autres qui, j'espère, viendront renforcer, je dirais, les épisodes du podcast dans quelques semaines, quelques mois, quelques années. J'ai envie de dire que pour ceux qui sont en train de commencer des études de pharmacie ou en train de sortir de ces études, que vous avez fait un excellent choix parce que ce sont des études qui vont vous ouvrir un nombre d'horizons, un horizon très très vaste et énormément d'options de développement avec des passerelles entre ces développements qui sont tout à fait possibles. J'ai beaucoup de collègues étudiants qui ont commencé leur carrière dans l'industrie, qui ont suivi en officine, d'autres qui ont commencé en officine qui à l'inverse sont allés en industrie, un certain nombre aussi qui ont monté des entreprises partenaires ou des officinaux ou de l'hôpital ou des industriels. Et pour ceux qui sont motivés travailleurs, c'est un parfait tremplin pour ceux qui trouvent important de s'intéresser à la santé de nos concitoyens. Je trouve que c'est de très belles études et vous avez fait un excellent choix.
Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que tu as apprécié. N'hésite pas à nous rejoindre sur la page Instagram du podcast, Le Journal du Pharmacien, et à me dire ce que tu en as pensé. À bientôt sur Le Journal du Pharmacien.